Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons cette semaine reprendre le livre de Jean Rigouste, Petit manuel du toponymiste occitan. Alors, petit manuel qui a quand même quelque chose comme 332 pages. Voilà, c'est un livre quand même un peu important, mais très intéressant. Alors, il est édité par Nouvellume et au Périgord en 2022, donc c'est un livre très récent, et il a été également publié avec l'aide du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Alors, on va reprendre un peu. Alors, il y a un chapitre qui s'intitule « Et pourquoi faisons-nous de la toponymie ?» Il est temps de nous poser la question. Bien sûr, nous faisons de la toponymie pour le plaisir de la recherche, pour le plaisir encore de découvrir des choses surprenantes, de savoir ce que nous faisons avancer, si peu que ce soit, la connaissance. Bien sûr, nous aimons publier les résultats de nos recherches, les présenter au public dans des conférences ou des colloques. Mais que voulez-vous, fin finale, quelles sont nos raisons profondes ? Nous découvrons, nous faisons connaître et nous redonnons vie à maintes traces du passé, passé de la langue, puisque la toponymie est un conservatoire de mots perdus, passé du territoire avec son relief, ses cours d'eau, sa végétation qui a peut-être changé à travers les siècles, passé des hommes avec leurs travaux, leurs métiers et même leurs noms. Alors des noms, il y a des prénoms, des surnoms qui rappellent des familles disparues. Des hommes et des femmes ont effacé de la mémoire du monde. Ils n'ont même pas le plus souvent une antique pierre tombale. Et les noms qu'ils avaient donnés à quelques champs, quelques combes ou quelques bois sont les seuls monuments qui nous ont laissé traces humbles de vie oubliées dans l'obscurité des siècles. Alors je poursuis un peu. C'est là que nous commençons à voir qu'au-delà du travail de relevé, de recherche et de publication, nous faisons quelque chose qui va plus profond jusqu'aux racines d'un peuple, en quête d'un patrimoine et d'une identité. Ces gens qui autrefois nommaient la terre à leur manière sont les nôtres par l'IEM et par l'esprit, et nous continuons leur œuvre en redisant leurs mots, en regardant les paysages mêmes qu'ils ont ponctués, des noms qu'ils avaient choisis. Or, certains d'autres lieux ont bien compris la portée de l'enjeu de ce travail quand ils ont voulu dompter et soumettre les peuples conquis. Ils ont changé leurs noms, les noms des lieux et les noms des personnes. Les exemples, nous en connaissons assez. Alors, ce chapitre se poursuit ainsi. Il faut donc avoir une vue juste et ouverte de notre quête. Ce n'est pas seulement linguistique, étymologique, philosophique, universitaire. Nous ne sommes pas des archéologues recueillant minutieusement les traces des fragments d'un passé perdu. Nous ne sommes pas des muséographes dépoussiérant et classant pieusement dans nos rayons des échantillons d'une culture oubliée avec de jolies étiquettes. Nous ne sommes pas non plus des infirmiers attentifs au chevet d'un malade qui vit ces derniers moments. Non, je nous considérerais plutôt comme les habitants d'une belle maison, grande et ancienne et solide, qui essaient du mieux qu'ils peuvent d'y faire entrer l'air et la lumière de leur pure de vie et de la décorer des fruits de leur travail. Si vous partagez cette façon de voir, que j'exprime peut-être d'une façon trop poétique, vous saurez que vous ne travaillez pas seulement pour un article pour un livre, vous travaillez pour une langue, pour un peuple, pour une âme qui ne veulent pas disparaître. C'est vrai que les noms qu'on peut rencontrer, principalement à la campagne, nous indiquent beaucoup de choses sur les lieux que nous foulons au pied, hein, par exemple aller chercher les champignons. Voilà. Alors il y a un autre chapitre qui s'intitule « Y a-t-il une spécificité de la toponymie occitane ?» Cette question posée dans la perspective du colloque de Duras est plutôt inédite. Les toponymistes, en effet, se sont longtemps préoccupés de leur commune, de leur canton, comme la Bénègre dans sa monumentale toponymie du canton de Rabastens. Alors ce livre a été publié en 1981. Ou de leur département, voire la totalité de l'Hexagone, seuls ceux qui travaillent sur une zone linguistique nettement déterminable, par exemple, les Bretons ou les Basques ont pu essayer d'établir en quoi les toponymes qu'ils étudiaient présentaient une certaine spécificité. Il a fallu attendre les ouvrages de Jacques Astor, leur dictionnaire de noms des familles et des noms de lieux du Midi de la France, alors c'est un livre qui est apparu en 2002, et de Bernard Fénier, en toponymie occitane, en 1997, en toponymie des pays occitans, en 2007, pour voir apparaître dans les titres et dans l'esprit de l'œuvre les dimensions occitanes bien démarquées de l'ensemble des romans et de l'ensemble hexagonal. La réponse que je pourrais donner en fonction de ces recherches et de mon expérience de toponymiste sera cependant quelque peu normande. Ce sera non. Et oui, alors, comme j'ai quelques racines normandes, je comprends très bien ce qui veut dire. Alors, donc, ce sera non. Et oui, nous allons voir pourquoi. Mais la masse de données est tellement gigantesque et encore si imparfaitement exploitée que je pourrais seulement essayer de mettre un peu d'ordre dans ce corpus. Et le temps qui m'est imparti étant assez bref, je devrais me limiter pour éviter un catalogue fastidieux et des exemples caractéristiques. Un choix forcément suggestif et réduit dans le monde entier, et quel que soit le peuple, les gens ont nommé des lieux qu'ils occupent, ils ont conquis sur d'autres hommes ou sur la nature, les lieux où ils vivent et travaillent. Dénommer un lieu, c'est créer un mot socialisé selon deux principes, le principe de commodité, ben oui, dénomination brève est plus simple une longue description, et le principe de détermination, il faut que ce soit bien ce lieu-là et qu'il soit désigné et non pas un autre. Et cette dernière nécessité qui explique l'apparition d'un système d'opposition dans les déterminants qui se crée partout lorsque le toponyme originel se met à recouvrir plusieurs implantations humaines. Voilà, bon, il y a les cultures, les habitations, ainsi trouve-t-on la série haut et bas et dessus, dessous. Voilà, on va continuer un tout petit peu la lecture, bien sûr, de ce livre. On va passer quand même un gros chapitre central. Et puis, on va s'intéresser à un article qui s'intitule « Quelques catégories particulières de toponymes ». Alors, parmi les diverses catégories de toponymes, quatre méritent particulièrement d'être étudiées. Les odonymes, noms de rues de nos villes et maintenant aussi des villages, mais aussi nom des vieux chemins qui nous révèlent souvent beaucoup de choses sur les déplacements de nos ancêtres et la vie de leur communauté. Les noms commençant par la particule honorifique « en » et qui n'existe qu'en occitan, les doubles topologiques qui disent deux fois la même chose et les micro-toponymes qui étaient la trame de l'univers de nos aïeux et qui disparaissent rapidement avec la désertion des campagnes. Des fois, les endroits, il n'y a plus d'habitants, mais les noms sont restés, même des fois, dans les bois. Dans les bois, on passe du bois de chez quelqu'un dans un bois de chez quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, il y a un coup d'œil sur l'odonymie. L'odonymie est l'étude des noms des rues et de chemins. Les chemins sont aussi importants dans le monde rural que les rues pour la ville, voire de voies de communication d'échange. Ils ont pris plus ou moins anciennement des noms parce qu'il est plus facile de les désigner ainsi et que de dire le chemin qui va de là à tel endroit, la rue où il y a telle maison, tel commerce, en employant des périphrases mal commodes. Alors, il y a bien sûr les chemins, surtout évidemment en campagne. Il sera intéressant dans toute notre étude de faire donner, de relever, d'étudier. Alors, il y a les qualificatifs du chemin grand, vieux. Quelle ancienneté, il est ferré, ainsi nommé parce qu'il était solide ou revêtu de mâche fer. Il y a des qualificatifs moins courants, chemin royal, grande route d'autrefois entretenue par les services royaux, et chemin roumieux, qui n'est pas bien sûr un roumieux, c'est un pèlerin. Hein. Alors donc le chemin roumieux pour les pèlerins, quelle destination, chemin molinal, Bourgal, eh bien, ça servait à désigner les moines. Alors, il y a le salinier, saunier, pour les transports du sel, ainsi des qualificatifs de couleurs, chemin vert, blanc, noir, rouge, et ça, on ne sait pas trop pourquoi. Je connais, par exemple, dans le Lot, il y a Nadaillac de rouge. Voilà. Alors, il y a bien sûr des dérivés. Alors, les dérivés courants, il y a les diminutifs, diminutifs et les augmentatifs. Camina, voilà, souvent des dérivés se trouvent au féminin. Cassinetto, caminaza, comment expliquer cet emploi, sachant que les mots chemin n'a pas de féminin. Il faudrait étudier les autres emplois du féminin dans la toponymie locale et demander aux informateurs comment le mot est ressenti. Voilà, alors, il y a bien sûr les déterminants qui peuvent être naturellement le nom et la destination proche ou lointaine. On pourra peut-être découvrir dans quelle tombola, zone d'attraction de la ville proche, se trouve l'endroit à étudier, les noms de ceux qui passent souvent par là. Alors, il y a le chemin des Fabres dans la Lozère et le chemin des Verriers dans l'Hérault. Alors, il y a bien sûr celui des animaux, le chemin des loups, de la serpe, des vaches également, alors sous de l'œil vac. Alors, des souvenirs de quelques anecdotes locales, chemin de la femme morte en Lozère, chemin des Poutous. Alors, les Poutous, c'est une bise. Hein. Alors, si ma traduction occitane, périgourdine est bonne, un Poutou, c'est une grosse bise. Alors, il y a des différences historiques, chemin roman, d'Éric IV, de la Reine Blanche, d'Ordogne. En Dordogne, quelle est cette reine? Bon, on ne sait pas trop, hein, la Reine Blanche. De Bruniquet, dans le Lot-et-Garonne, la reine Brunehaut, référence souvent fantaisiste, mais il vaut mieux vérifier. Alors, il y a bien sûr des nombres de chemins, rares trois chemins, c'est très courant, et ainsi de suite, 4, 5, 6, 7 chemins, et il faut savoir qu'il y a une bifurcation à Y. Nous voyons trois chemins, un carrefour, et nous en voyons quatre. Même chose pour les autres. Voilà. Alors, j'arrêtais là cette lecture. Bon, il y a les autres nominations de chemin. Alors, il y a un chemin, souvent une montée, avec des galets, surtout en Provence. Et puis, bon, mais il y a comment je pourrais dire, le Caral, en Gascon, Carreau, en Limousin, Charreau, etc., etc. Alors, je vais quand même donner une petite précision sur l'auteur. Et donc, Jean Rigouste, alors né en 1938 dans une famille cassinoise, Jean Rigouste a parlé l'occitan avec ses parents dès son enfance. Agrégé de lettres classiques et titulaire d'un DEA de géographie historique, il a enseigné le français et l'occitan à l'Académie de Bordeaux. Auteur de la méthode d'apprentissage par l'occitan, il est un des fondateurs de l'école occitane d'été. Il a animé divers cours d'onomastiques et écrit des articles et chroniques de toponymie, il est membre de la Société française d'onomastique. Alors voilà pour l'auteur de ce livre, donc petit manuel de toponymiste occitan. Voilà. Alors, il y a bien sûr on a vu les chemins, mais il y a aussi les rues en ville. Alors, leur nom peut être fort intéressant parce qu'ils sont souvent chargés d'histoires grandes ou locales comme dénomination pour rencontrer. Alors, il y a des noms descriptifs, la rue longue droite, rue de l'angle droit, à L, à Agen, la route bombe-cul, montée raide, peine dans le Lot-et-Garonne, des noms d'après les végétations locales, la route des chênes à Agen, route des amandiers à Bordeaux, des remotivations sont possibles, la rue des amoureux à Marseille était la carrière des amouriers, des mûriers. Voilà. Alors, il peut bien sûr y avoir des transformations. Alors, pour terminer, je vais donner quand même quelques exemples. Il y a bien sûr l'enfer. Alors, l'enfer, c'est pas très périgourdin. L'enfer, il y a de diabolique ici, le mot vient du latin infernum, qui a conservé son sens étymologique, le lieu d'en bas. Désigne donc un lieu en contrebas, un ravin, ou une dépression profonde, parfois a suscité un paradis pour désigner un lieu voisin élevé, et peut-on parler de rétronymie. Alors il y a le nom d'Angoisse, bien sûr la ville d'Angoisse, quand on va par la 704 à Limoges, on traverse Angoisse. Alors Angoisse en occitan vient du latin Augustia, pardon, passage étroit à gorge, ensemble, nom commun, à quelque chose qui resserre la gorge, Angoisse. L'amour te sert le gosier, écrit Apollinaire. Voilà, et puis il y a la Cate, c'est aussi le nom d'un quartier de Bergerac. Nous avons ici une mécoupure, il faut lire la capte avec le groupe PT assimilé avec deux T, une acapte, alors qui a donné aussi le nom en français à acheter, était le droit de mutation payé par celui qui achetait une terre qui appartenait en principe au seigneur. Et le nom est resté pour désigner la terre acquise de cette façon. Et puis il y a les âges, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui s'appellent les âges. Âge est simplement le mot limousin pour « et ». La proximité phonétique de ce mot avec l'âge, l'âne, explique pourquoi on rencontre ça et là en Dordogne et dans la Vienne des lieux nommés l'âne vert. Voilà, ah ben je vais arrêter là cette lecture. Je vous souhaite une bonne semaine, ensoleillée, et à lundi prochain.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.